إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir ici ensemble pour apprendre ensemble notre religion, revoir les fondements de celle-ci, être dans une assise aimée par Allah avant tout, dans une assise dans laquelle la foi augmente, dans une assise où on est avec nos frères en islam, dans une assise à laquelle les anges participent, dans une assise à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, car nous sommes réunis pour l'évoquer et pour apprendre sa religion et affirmer le plus grand droit qui lui est dû, qui est le monothéisme pur, l'unicité. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Donc au nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc c'est la traduction du texte du Cheikh, « Wabihi nasta'in » et c'est auprès de lui qu'on s'appuie, qu'on prend l'aide. « Je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié protecteur, ici-bas et dans l'au-delà. » On pourrait le traduire aussi par ton guide tutélaire, qu'il soit ton guide tutélaire, c'est-à-dire celui qui se charge de tes affaires, qui s'occupe de toi, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il te bénisse, où que tu sois, qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé et repentant lorsqu'il est pécheur. Car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Donc l'écrivain qui est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a commencé cette épître par al-basmala, par le fait d'écrire bismillahir rahmanir rahim. En se suffisant de cela, il a suivi en cela la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il écrivait au roi, il commençait ses écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc les écrits, la sunna, c'est de commencer les écrits par la basmala. Et tous les écrits, les épîtres, les livres qui ont été écrits par les savants après cela, c'est dans le même sens. C'est pour ça que il est sunna de commencer un écrit par Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il a invoqué en faveur des personnes qui vont lire ou écouter cette épître. Il a invoqué pour eux par trois invocations. La première invocation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit son guide, protecteur, tutélaire et allié dans ce monde et dans l'au-delà. Et Al-Wali, c'est un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire celui qui gère les affaires de toutes ses créatures et qui les dirige. Et celui qui gère les affaires des croyants spécifiquement dans ce qui leur est profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, quand il a invoqué en ta faveur que Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui te protège et qui gère tes affaires et qu'il fasse en sorte que pour les croyants spécifiquement, car la wilaya pour les croyants elle est spécifique, elle n'est pas générale comme pour toutes les créatures, pour les croyants spécifiquement, ils gèrent leurs affaires envers tout ce qui est bénéfique pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. La deuxième invocation qu'il a fait pour lui, c'est أن يجعلك مباركا حيثما كنت. C'est-à-dire qu'il fasse de toi quelqu'un de béni. Quelqu'un de béni, c'est quelqu'un qui a une grande quantité de bien. Quelqu'un qui soit une cause de grande quantité de bien et que ce bien soit durable. Puis, la troisième invocation qu'il a fait pour lui, c'est-à-dire pour le lecteur, qu'il te fasse parmi ceux qui, quand on leur octroie, ils sont reconnaissants, quand ils sont éprouvés, ils sont patients, et quand ils commettent un péché, ils demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'écrivain a compté ces trois qualités parmi les caractéristiques des gens du bonheur et les signes du bonheur. Car effectivement, tout serviteur, dans sa vie, il ne sort pas de ces trois situations. Ou bien il est en train de subir un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il subit une épreuve, ou bien il a commis un péché. Dans chacun de ces cas, Allah lui a donné des ordres. Dans chacun de ces trois cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des ordres, une manière d'agir. Dans le cas où il est touché par les bienfaits, son ordre, c'est d'être reconnaissant. Et la reconnaissance, elle se manifeste en trois points. Premier point, par le cœur, par la langue et par les actes. Par le cœur, qu'il reconnaisse que ce bienfait vienne d'Allah et qu'il sache que quoi qu'il fasse, il ne sera jamais assez reconnaissant envers celui qui lui a donné ce bienfait. Par le cœur. Par la langue, c'est qu'il attribue ses bienfaits à Allah et qu'il le loue pour cela. Par les actes, qu'il utilise ces bienfaits qu'Allah lui a donnés de la manière qui plaise à Allah. Allah t'a donné la santé. Si tu utilises cette santé pour lui désobéir, est-ce que tu es reconnaissant? Non. Celui qui utilise cette santé pour lui obéir, alors il est reconnaissant pour ce bienfait qu'Allah lui a donné. Certaines personnes, Allah leur a donné des biens, de l'argent. Et lui, il dépense dans les œuvres de bien. Quand il dépense pour les obligations religieuses, pour ses proches, pour les nécessiteux, pour les projets qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'il lui a donné qui est l'argent. Quand il est avare, quand il ne dépense pas dans les obligations religieuses, quand il ne donne pas pour ses proches, etc., alors il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Donc la première qualité du bonheur, c'est, le premier signe du bonheur, c'est quand on est touché par un bienfait, on est reconnaissant. Le deuxième signe du bonheur, c'est quand la personne est éprouvée, il est patient, il patiente. La patience, c'est le fait de retenir son âme. C'est le fait de retenir son âme contre la colère et le fait de la retenir de faire ce qui déplaît à Allah. Ou de penser, avoir des mauvaises pensées envers Allah. Ou bien de dire des mauvaises paroles. Ou faire de mauvaises choses. Comme par exemple quelqu'un qui pense du mal d'Allah. Qui se dit, je n'ai pas mérité ce mal. Ça, c'est une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment penserais-tu qu'Allah est injuste envers toi? Ou bien qu'il dise avec sa langue des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme insulter la vie, ou dire des paroles qui sont contradictoires à la soumission et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et La patience aussi, elle se manifeste dans les actes. Du fait qu'il ne va pas faire avec ses membres du corps des choses qui sont contradictoires à la patience, comme se déchirer les vêtements, frapper ses joues, s'arracher les cheveux, casser les assiettes, etc. Donc, le premier signe du bonheur, c'est d'être reconnaissant au moment quand on est touché par un bienfait. Le deuxième signe du bonheur, c'est d'être patient quand on est touché par un malheur. Et le troisième signe du bonheur, c'est le fait de demander pardon quand la personne fait des péchés. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils d'Adam est pécheur. » Et le meilleur des pécheurs sont les repentants. Donc le péché et l'erreur est de nature humaine et normale chez l'être humain. Mais le croyant, les gens du bonheur, quand ils font un péché, ils se repentent rapidement. Ils regrettent. Ils demandent pardon. Ils mettent l'intention de ne plus revenir à ce péché. Même les meilleurs des hommes qui ont été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des hommes. Donc comme tout homme, ils faisaient des erreurs et des péchés, n'est-ce pas? Sauf que leur état général était la piété. Les péchés étaient une exception dans leur vie. Ça, c'est la première différence. On ne dit pas c'est des hommes, on est des hommes, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leurs yeux. Allah les a choisis pour être en sa compagnie. Donc, leur état général, c'était l'obéissance et la piété. Et le péché et l'erreur étaient exceptionnels. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand ils tombaient dans le péché et l'erreur, le repentir qu'ils exprimaient était tellement fort que cela montrait encore plus leur niveau de foi. Comme cette femme qui avait forniqué, qui a demandé à sacrifier de sa vie, que la peine lui soit appliquée pour ce péché qu'elle a fait. Quelle meilleure chose que quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour être tellement l'expression de son repentir était grand. Ça, cela montre sa foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle des croyants en disant que les croyants, إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Quand un groupe parmi les shayatines les touche en les poussant vers le péché ou vers l'erreur, ils se rappellent. Ils se rappellent Allah. Et voilà qu'ils sont clairvoyants. Donc ils se dépêchent, ils s'empressent à regretter et à revenir au droit chemin. Donc commettre des péchés, commettre des erreurs, c'est propre à la nature humaine. Mais le croyant agit d'une manière et le pervers agit d'une autre manière. Le croyant regrette, répare, demande pardon, se repent. Le pervers ne regrette pas, continue et nourrit de vains espoirs sur la miséricorde d'Allah. Allah va me pardonner, Allah va me pardonner. Et il continue dans ce péché. Ou bien Shaitan entre par une autre porte qui est la porte du désespoir. En lui disant, de toute façon tu as fait le péché, autant en rajouter. Maintenant que tu as fait le péché, autant finir. Non, ce n'est pas comme ça, il y a une balance le jour du jugement dernier. Faire une erreur et revenir, c'est pas comme quelqu'un qui fait une erreur, qu'il suit d'une autre erreur, puis une autre erreur, puis une autre erreur. Tout cela pèse dans la balance. Donc voilà les signes de la réussite et du bonheur. Quand on est touché par un bienfait, on est reconnaissant. Quand on est touché par un malheur, on patiente. Et quand on fait des péchés, on demande pardon et on se repent. Puis le cheikh a dit, rahimahullah, « I'alam » أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, et que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'écrivain ici, rahimahullah, a cité que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. En expliquant la réalité de celle-ci, Al-Hanifiyya, religieusement parlant, elle a deux sens. Un sens général, qui est l'islam. Et un sens précis, qui est le fait de revenir, de tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala par le monothéisme pur. Ce qui implique de s'éloigner et de se désavouer du polythéisme. Et quand l'écrivain dit أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, c'est que tu adores Allah seul en lui vouant exclusivement le culte. Ceci est l'objectif de l'Hanifiyya. Et c'est son essence même. Et ce sens-là comprend les deux sens qu'on a cités auparavant, général et précis. Et l'Hanifiyya, c'est la religion de tous les prophètes. Pourquoi alors ici, l'écrivain a dit la religion de Ibrahim et l'Hanifiyya? Pourquoi il cite Ibrahim et il n'a pas dit la religion de tous les prophètes et l'Hanifiyya? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les Arabes envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé connaissaient le prophète Ibrahim alayhi wa sallam. Car ils se vantaient du fait qu'il était leur ancêtre. Donc, en leur rappelant le prophète Ibrahim, auquel ils s'affiliaient, et dont ils étaient fiers, c'était un moyen de leur rappeler, bon, puisque vous êtes fiers du prophète Ibrahim alayhi salam, et vous dites qu'il est votre ascendant, et vous êtes vous ses descendants, alors sachez que Ibrahim, sa religion c'était le Hanifiyya, de vouer un culte exclusif à Allah. Ce que vous, vous ne faites pas. Donc ça c'est la première raison pourquoi Ibrahim alayhi salam a été cité plutôt que les autres prophètes. La deuxième raison, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de Ibrahim alayhi salam un imam, un guide pour les prophètes qui sont venus après lui. À la différence des prophètes qui l'ont précédé. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un imam, un guide pour les prophètes qui sont venus après lui. Donc tous les hommes, Allah leur a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont été créés pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore, comme il a été cité dans ce verset de Sourate Al-Dhariyat. Et ce verset est une preuve sur deux points. Premièrement, que Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé ses créatures pour l'adorer. Et ce qui implique cela, le deuxième point, s'il les a créés pour cela, donc il leur a ordonné cela. Il leur a ordonné de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Et le monde des djinns et le monde des hommes, il est compris dans An-Nas. Quand il dit Allah a créé les gens, An-Nas. Donc, quand il dit An-Nas, cela comprend et les djinns et les hommes. Quand il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Et voilà ce qu'Allah a ordonné à tous les hommes, à tous les gens. Et il les a créés pour cela. Et du fait que les gens sont créés pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'Allah leur a ordonné cela, ceci, tous les musulmans le savent. Ils n'ont aucun doute sur cela. Ils ne remettent pas en question cela. Et c'est pour cela qu'il part sur une base, le cheikh ici, sur laquelle tout le monde est d'accord. Allah nous a créés pour l'adorer. Puis, il va détailler en leur expliquant que signifie l'adoration. Puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'Allah a créé les gens pour l'adorer, et nous on fait partie des gens, alors venez ensemble, on va comprendre que veut dire l'adoration d'Allah. Il dit, rahimahullah, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ صَلَاةً إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc il a dit dans le sens lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration. Sache alors que l'adoration ne porte ce nom que si elle est monothéiste, vouée à Allah seul. Tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt et l'annule, tout comme l'état d'impureté rituel corrompt la purification. Lorsque tu sauras que quand le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et l'annule, il la corrompt et annule toutes les actions, celui qui le commet devient parmi les éternellement damnés à l'enfer. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi est de connaître cela. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qu'est l'association à Allah, au sujet duquel il a dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. » Et ceci se fera par la connaissance de quatre règles qu'Allah a énoncé dans son livre. Donc il finit son introduction ici en citant la sagesse de la création des créatures, des gens, qui est l'adoration d'Allah. Et nous avons dit auparavant que ceci est une chose unanimement reconnue par les gens de la Qibla, par les musulmans. Et il a expliqué que l'adoration ne peut être nommée comme telle que si elle est accompagnée du tawhid, du monothéisme pur. Alors celui qui prétend qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas monothéiste dans son adoration, alors son adoration n'est pas considérée comme telle. Elle n'est pas considérée comme une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a proféré une prétention mensongère. Il a proféré une prétention mensongère. L'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, elle a deux sens. Un sens général, qui est son obéissance, accompagnée de son amour et d'humilité. Elle a un sens précis, qui est le tawhid, le monothéisme pur. Et le tawhid, il a aussi un sens général, qui est le fait d'attribuer l'unicité à Allah dans ce qui lui est dû de droit, donc dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et les attributs d'Allah. Et elle a un sens précis, qui est le fait d'adorer Allah seul sans lui donner d'associé. Alors, l'écrivain a expliqué, après cela, que cette adoration, elle a un acte qui l'annule complètement, qui est le polythéisme, le shirk. Et le shirk, il a un sens aussi comme le tawhid, général et précis. Le sens général, c'est le fait de donner quelque chose qui est dû à Allah à autre qu'Allah. Que ce soit dans la seigneurie, dans l'adoration ou dans les noms et les attributs d'Allah. Et le sens précis, c'est le fait de diriger l'adoration vers autre qu'Allah. Vers autre qu'Allah, tabarak wa ta'ala. Et ce shirk-là, il est de deux catégories. Un polythéisme majeur, le shirk al-akbar, et un polythéisme mineur, le shirk al-asrar. Le polythéisme majeur, c'est le fait de diriger quelque chose qui est un droit spécifique à Allah pour autre qu'Allah, et qui annule la base de la foi, qui annule la foi totalement. Et le shirk mineur, qui n'a rien de mineur en soi, c'est un grand péché, mais il est nommé mineur pour le différencier du majeur, tout simplement. Pour savoir qu'il ne fait pas sortir de l'islam. Donc le shirk mineur, c'est aussi de donner quelque chose qui est un droit d'Allah à autre qu'Allah, mais qui ne fait pas sortir de l'islam, qui fait diminuer la foi obligatoire, la complétude de la foi obligatoire, qui ne l'annule pas complètement. Donc la différence entre le shirk majeur et mineur, c'est que le premier annule complètement la foi et le deuxième diminue la foi et ne l'annule pas complètement. Donc, il a expliqué que si le shirk, le polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, entre dans l'adoration, il annule cette action. Par contre, ici, le cheikh désigne le shirk majeur, polythéisme majeur. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si tu sais que ce polythéisme, quand il est mélangé à l'action, il le corrompt et il annule tous les actes, et que celui qui s'en rend pécheur sera éternellement en enfer. Donc là, on comprend qu'il parle de qui ? De ceux qui commettent le polythéisme majeur. Par contre, ceux qui commettent le polythéisme mineur, leur acte est aussi annulé, mais pas tous leurs actes. L'acte dans lequel il a commis le polythéisme mineur. Par exemple, quelqu'un qui fait la prière, la salat. Et pendant sa salat, il fait un acte d'ostentation. Il embellit sa salat pour les gens qui le regardent. Il embellit sa lecture du Coran pour les gens qui l'écoutent. Celui-là, il a fait un acte de polythéisme mineur. Quelle est sa conséquence ? Cette salat n'est pas acceptée de la part d'Allah. Cela annule cet acte. Cela annulera pas tous ses actes. Celui dans lequel il a commis un polythéisme mineur. Par contre, celui qui commet un acte de polythéisme majeur, comme se prosterner pour autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, sacrifier pour autre qu'Allah. Celui-là, l'acte qu'il a fait, il est rejeté, il est nul, mais il a annulé aussi tous ses actes. Il a annulé sa foi, il a annulé toutes ses œuvres. Et il est devenu par cet acte mécréant. Donc vous comprenez la différence entre les deux catégories. L'impureté du polythéisme est la plus grande des impuretés. Et comme Allah tabarak wa ta'ala nous a ordonné, c'est ça l'exemple que donne le cheikh ici. Quand quelqu'un est touché par une impureté rituelle qui annule ses ablutions, est-ce que sa prière elle est valide? Quelqu'un en pleine prière, il a un gaz. Est-ce qu'il peut continuer à prier? Est-ce que sa prière elle est valide? On ne parle pas des personnes qui sont malades, hein, les gens qui sont éprouvés par l'incontinence. Nous on parle dans les cas normaux. Non. Quelqu'un en pleine prière, il a de l'urine qui sort. Est-ce qu'il peut continuer à prier? Non. Donc quand une impureté rituelle vient pendant la prière, elle corrompt la pureté rituelle et de ce fait, elle corrompt la prière. La prière, qui est un des actes les plus aimés d'Allah, n'est-ce pas? Si elle n'est pas faite en état de pureté rituelle, elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est corrompue par cette impureté rituelle, n'est-ce pas? Par cet état d'impureté rituelle. De même, le polythéisme est la pire des impuretés morales. Le polythéisme, ce n'est pas une impureté physique. C'est une impureté morale. Et c'est la pire des impuretés morales. Alors quand cette impureté vient se mélanger à la pureté de l'adoration, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle l'annule. De la même manière que l'état d'impureté rituelle annule la prière, qui est une adoration. Est-ce que c'est clair? Ça c'est très important à comprendre, parce que certains ils vont dire, ces gens ils adorent Allah, ils font des bonnes œuvres. Mais si, dans cette œuvre-là, ou dans d'autres œuvres, il fait des actes de polythéisme majeur, en faisant cela, il a annulé son acte. Et il a cité pour cela le verset du Coran, « Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Ce verset montre que le polythéisme n'est pas pardonné. Qu'il soit majeur ou mineur. Quelqu'un va dire comment? Le polythéisme mineur n'est pas pardonné non plus? Non, il n'est pas pardonné. Ça veut dire qu'il sera mis dans la balance des mauvaises actions. Puis ses actions seront pesées. Et si ses bonnes actions sont assez lourdes pour contrebalancer, alors il entrera au paradis. Sinon, il passera par l'enfer pour se faire purifier. Mais il n'y restera pas éternellement. À la différence de celui qui commet le polythéisme majeur, dont tous ses actes sont annulés, dont, pour lesquels Allah ne lui pardonnera pas, et pour lequel il sera éternellement en enfer. Qu'Allah nous en préserve. D'où l'importance de connaître le polythéisme, pour ne pas tomber dedans. Et l'obligation de connaître le polythéisme, elle découle du fait de l'obligation de connaître le tawhid, ce pourquoi Allah nous a créé, l'adoration. À la base, l'important c'est de connaître le tawhid. Et on ne peut pas bien connaître le tawhid si on ne connaît pas son contraire, qui est le polythéisme. Donc on apprend le polythéisme pour préserver notre tawhid, le monothéisme. Et pour éviter d'annuler notre monothéisme, notre tawhid. Qui est la base pour laquelle Allah Ta'ala nous a créé tous les gens. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Puis le Cheikh a dit que pour expliquer cela, il va se baser sur quatre règles qui sont tirées du Coran. Quatre règles, quatre grandes règles de base tirées du Coran. Donc l'objectif de ces règles-là, c'est de différencier entre le musulman et le polythéiste. Et ceci revient à connaître la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à connaître l'état des polythéistes envers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Car en connaissant ces deux points-là, on connaîtra quelle est la différence entre un musulman et un associateur polythéiste. On va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. والله تعالى أعلى وأعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Et la prochaine fois, Inch'Allah, on entrera dans la première et deuxième règle de ce livre, بإذن الله سبحانه وتعالى.